Anne-Laure Choin s'est dévouée pour le journal. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur l'interview hier de Gabriel Attal et son intention de réformer à nouveau l'assurance chômage. À droite, on fustige le manque d'économies prévues pour l'État.
La coopérative Railcoop mise en liquidation, elle souhaitait remettre sur pied la ligne de train Lyon-Bordeaux, mais n'a pas pu rassembler les capitaux suffisants.
Et puis à Gaza, les frappes israéliennes continuent, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner et les médecins se débrouillent comme ils peuvent. Nous entendrons le témoignage de l'un d'entre Après ce journal, ce sera votre question du jour, Marguerite Caton.
Les maths font-elles leur grand retour au lycée ?
Un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage accusé d'empêcher le retour au travail des Français. C'était prévu. Gabriel Attal l'a en quelque sorte acté hier aux 20h de TF1. Après deux réformes presque consécutives en 2019 et 2023, dont la dernière n'a pas vraiment eu le temps de montrer ses effets, le Premier ministre souhaite donc encore réduire la durée d'indemnisation des chômeurs et a demandé à la ministre du Travail de préparer de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux, dont on rappelle qu'ils sont en charge de la gestion de l'UNEDIC. Les dépenses sociales sont donc dans le viseur du gouvernement qui a dû prendre acte mardi d'un chiffre record du déficit public. Mais de changement de cap de politique économique, il n'est pas vraiment question. L'analyse de Rosalie Lafarge.
Oui, le déficit dérape. Oui, il faut trouver des milliards d'euros supplémentaires. Mais non, on ne revient pas sur nos engagements, martèle le Premier ministre.
Nous gardons l'objectif de passer sous les 3% de déficit en 2027.
Et tant pis si l'agence Moody's juge déjà improbable d'y arriver.
Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était improbable qu'on ramène le déficit sous les 3% en 2018 quand on l'a fait avec le président de la République.
Pour y parvenir, là non plus, on ne change pas d'idée phare.
On a toujours dit qu'on n'augmenterait pas les impôts.
Et alors qu'un débat sur la taxation des super-profits divise la majorité...
Moi, j'ai jamais eu de dogme sur le sujet.
Gabriel Attal repose ses lignes rouges, pas touche aux Français de classe moyenne...
Qui, pardon, hein, mais gagne toujours un peu trop pour avoir des aides... mais jamais assez pour pouvoir s'en sortir convenablement tout seul.
Pas touche non plus aux entreprises.
Qu'est-ce qui crée les emplois en France ? Qu'est-ce qui permet aux Français de travailler ? C'est quand même avant tout les entreprises.
Seul vecteur possible donc pour le Premier ministre, celui d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage souhaitée avant la fin de l'année, la troisième sous Emmanuel Macron.
À chaque fois que vous avez un Français supplémentaire qui travaille, par définition, il travaille et donc il va payer des cotisations, son employeur aussi, et il va payer des impôts. Donc l'objectif, ça reste d'arriver au plein emploi, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait plus de Français qui travaillent, parce que ça permet d'augmenter les recettes. Et je le dis ici, mon objectif, c'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur. C'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi.
Il trace des pistes, attribue ses préférences, pose le calendrier, mais Gabriel Attal se garde bien de trancher s'en remettant au dialogue social, sans éviter pour autant un flot de critiques de la part des syndicats comme des oppositions.
Des syndicats qui assimilent les mesures d'austérité proposées à la saignée du malade imaginaire de Molière, un soi-disant traitement qui accélère la mort, selon Sophie Binet à la CGT. À droite, on critique surtout le manque de propositions du gouvernement pour sabrer dans les dépenses de l'État. Fabien Di Filippo, député Les Républicains de Moselle, était hier invité de France Info.
Ce qui est sidérant, c'est de bien mesurer le décalage, aussi bien sur la forme que sur le fond, entre la gravité de la situation budgétaire, un record de dette, un record de charge de la dette, et ça ne sera pas 50 milliards par an au bout du quinquennat, on sera plus proche des 90, la facture Macron qui va être imposée au pays, le décalage entre ça et ce qui a été annoncé, ou plutôt ce qui n'a pas été annoncé par le Premier ministre. Il y avait énormément de médiocrité dans cette intervention, et aussi un peu de lâcheté. On parle d'une réforme de l'assurance chômage, mais pour laquelle il se cache derrière les partenaires sociaux. Et pour le reste, rien. Oui. Sur le train de vie de l'État, sur les dépenses publiques, absolument rien du tout. Je ne vois pas comment on peut redresser la situation dans de telles conditions.
Concernant le sujet d'une taxation éventuelle des super-profits, le Premier ministre s'est dit sans dogme sur le sujet. Un dogme, en revanche, a été réaffirmé hier soir. Pas d'augmentation d'impôts pour les Français qui travaillent, je cite, et les classes moyennes. Autre sujet qui a fait l'objet de commentaire du Premier ministre, l'annonce du départ du proviseur du lycée parisien Maurice Ravel, menacé de mort après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile. Sa mise à la retraite anticipée a provoqué hier une vague d'indignation. Gabriel Attal a annoncé une plainte de l'État pour dénonciation calomnieuse contre la jeune femme incriminée, majeure, scolarisée en BTS dans ce même lycée. Elle l'aurait quitté depuis les faits. Il ne faut rien laisser passer, a dit le Premier ministre en rappelant la mort tragique de Dominique Bernard et de Samuel Paty, deux enseignants tués dans les attentats islamistes. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Il faut dire qu'en ce moment, dans les établissements scolaires, l'inquiétude est grande.
Oui Anne-Laure, et plus particulièrement chez les chefs d'établissement qui sont très marqués par le départ, pour raison de sécurité, de leurs collègues du lycée Ravel, ainsi que par les différentes menaces d'attentats survenues depuis la fin de la semaine dernière sur les ENT, enseignement numérique de travail, qui ont créé un véritable climat anxiogène. Si bien que même le SNPDN, le principal syndicat des chefs d'établissement, n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview de peur des représailles. Une situation sans précédent, m'ont dit certains d'entre eux, hors micro, car ils n'avaient pas hésité à parler, même après par exemple la mort de Dominique Bernard en octobre dernier. Tout en reconnaissant que contrairement à Samuel Paty, cette fois le ministère de l'Éducation avait bien pris les choses en main en accompagnant dès le départ de l'affaire le proviseur du lycée Ravel, notamment en assurant sa sécurité. Des menaces d'attentats auxquelles il faut également ajouter les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires, car même si en février les chiffres montrent une certaine stabilisation, peut-on dire, avec 336 cas contre 590 en décembre, qui était un pic, on peut toutefois s'interroger sur les nouvelles formes qu'elles prennent. En effet, la suspicion de prosélytisme constitue désormais la première catégorie des signalements d'atteinte à la laïcité, avec 20% des cas en février, suivi des contestations d'enseignement, puis des ports de signes et de tenues religieuses. Pour faire face à ces nouvelles menaces, la prochaine réforme de la formation des enseignants, que doit prochainement présenter Emmanuel Macron, va d'ailleurs tenir compte des atteintes à la laïcité, avec une formation spécifique et dédiée, afin de mieux accompagner les nouveaux enseignants lorsqu'ils arriveront sur le terrain, dans les classes, devant les élèves.
Hakim Kasmi, merci beaucoup. On reviendra sur cette actualité avec vos invités des matins, Guillaume Erner.
7h06 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Ce sera à l'été 2024, avec 12 ans de retard, que l'EPR de Flamanville injectera pour la première fois de l'électricité dans le réseau français.
EDF l'a fait savoir dans un communiqué publié hier, où le groupe précise que l'EPR de Flamanville 3 est techniquement prêt pour engager sa mise en service à 25% de puissance dans un premier temps, montant total du surcoût pour cette centrale de nouvelle génération, 10 milliards d'euros. C'était un projet pourtant vertueux qui n'aura pas duré. La coopérative Railcoop, qui avait pour ambition de restaurer la liaison ferroviaire transversale Bordeaux-Lyon, a annoncé hier sa prochaine liquidation. À son plus grand regret, précise-t-elle, la décision devrait être prise le 15 avril prochain par le tribunal de commerce de Cahors. Née en 2019, la coopérative aux 14 500 sociétaires devait réutiliser d'anciens wagons pour rétablir cette ligne supprimée par la SNCF. Placée en redressement judiciaire mi-octobre pour manque de fonds, elle n'a pas pu trouver suffisamment de capitaux pour garantir son activité et de nouvelles dépenses imprévues viennent de lui faire jeter l'éponge. Annabelle Grelier.
Elle est peu électrifiée, elle traverse la montagne, présente des voies uniques et des rebroussements. La ligne Bordeaux-Lyon était loin d'être la plus simple à exploiter, nous expliquait au début de l'aventure Nicolas de Bézieux, le directeur général de Railcoop. Mais ce projet était hautement symbolique. D'une distance de 630 km, cette ligne Bordeaux-Lyon était avant tout transversale, quand l'essentiel du réseau SNCF est dessiné selon des axes Paris-Province. Sur le trajet, 9 arrêts étaient prévus dans des villes moyennes comme Périgueux, Guéret ou Montluçon, mais aussi des petites villes comme Saint-Sulpice-Laurière, Saint-Germain-des-Fossés et Gana dans l'Allier, qui pour l'occasion devait rouvrir sa gare, aujourd'hui désaffectée. L'aventure avait suscité un bel élan citoyen, 14 500 personnes et une douzaine de collectivités locales avaient souscrit des parts sociales dans la coopérative, récoltant 10 millions d'euros et encore 350 000 euros l'année dernière, quand il avait fallu remettre la main à la poche pour éviter le redressement judiciaire. Railcoop s'est battue jusqu'au bout et croyait encore pouvoir s'en sortir en vendant deux rames qu'elle avait rachetées d'occasion à la région Rhône-Alpes. Mais c'est finalement la facture de garage de 800 000 euros que lui réclamait la société de maintenance qui aura stoppé net l'aventure, laissant à quai tous les espoirs de revoir passer le train dans la campagne.
La réforme constitutionnelle sur le statut de la Corse est en bonne voie. Après un accord entre élus Corse et ministère de l'Intérieur, c'est l'Assemblée nationale qui a adopté hier l'écriture constitutionnelle prévoyant un statut d'autonomie de la Corse au sein de la République à une large majorité. Le texte prévoit de mentionner la notion de communauté corse, la possibilité d'un pouvoir normatif octroyé aux élus, enfin l'idée de soumettre ce texte aux électeurs corses via une consultation populaire. On passe à l'actualité à l'étranger avec toujours des frappes intenses et meurtrières de l'armée israélienne sur Gaza. Des dizaines de Palestiniens ont été tués lors d'affrontements entre soldats israéliens et combattants du Hamas aux abords de plusieurs hôpitaux notamment, en particulier ceux des villes de Gaza et de Ran Younes, alors que l'état du système de santé gazaoui a été quasiment réduit à zéro. Notre correspondante Alice Froussard a pu joindre par téléphone un médecin du nord de Gaza qui raconte comment, même pour soigner, il ne lui reste que le système D. Écoutez son reportage.
Avant la guerre, cette petite salle était un laboratoire de chimie dans une école de la ville de Gaza. Mais faute d'hôpitaux, faute de bâtiments encore debout, elle est devenue un centre médical de fortune, l'un des seuls qui traite encore les personnes restées dans le nord de la bande de Gaza, explique l'un de ses docteurs, Mahmoud Al-Shourafa.
Tous les jours, la situation est de pire en pire. C'est vraiment très difficile en tant que médecin de dire à des patients qui arrivent gravement blessés qu'on n'a plus de quoi les soigner, qu'il manque de quoi désinfecter, recoudre et tout ça parce que nous manquons de matériel médical.
Il le précise, avec les tirs à proximité, les bombardements, les transferts de patients vers de réels hôpitaux sont quasiment impossibles.
Certains sont morts sous nos yeux et parfois c'était parce qu'il manquait un simple outil médical pour les sauver. Ça nous laisse une boule à la gorge en permanence. Je me rappelle le pire, c'était ce vieil homme. Il est arrivé avec des éclats d'explosion dans le cou. Son état nécessitait une opération urgente dans un hôpital. Nous savions que nous ne pouvions pas l'aider dans ce local. Nous avons pris une voiture, mais c'était déjà trop tard. Il s'est vidé de son sang et il est mort dans nos bras.
Car avec des médicaments inexistants, les antidouleurs, les anesthésiants, des maladies qui se propagent et un manque de moyens criant avec ses équipes, le docteur Mahmoud Al-Shourafa dit faire ce qu'il peut avant d'ajouter que jamais il n'aurait imaginé travailler dans de telles conditions.
137 élèves enlevés le 7 mars dernier par des bandes armées dans le nord-ouest du Nigeria doivent retrouver aujourd'hui leur foyer. Les enfants originaires du secteur de Kuriga avaient été emmenés de force avec un adulte qui lui a été tué. Le Nigeria connaît sa pire crise économique depuis 30 ans et fait face à une recrudescence de ses kidnappings contre rançon. Et puis au Japon, 4 personnes sont potentiellement décédées des suites de l'ingestion de compléments alimentaires. Un scandale sanitaire qui s'amplifie depuis quelques jours. Ces compléments sont à base de levure de riz rouge vendue comme un anticholestérol naturel, mais aussi dangereuse pour le foie et les reins. Le laboratoire japonais Kobayashi et le ministère de la Santé enquêtent aussi sur plus d'une centaine de cas d'hospitalisation. Enfin, aux États-Unis, le prince déchu des crypto-monnaies, alias Sam Bankman-Fried, connaîtra aujourd'hui sa peine après avoir été reconnu coupable de fraude en novembre dernier. À 32 ans, il est connu pour avoir créé la plateforme d'échange de devises FTX et fut à l'époque considéré comme un génie visionnaire des crypto-monnaies, avant que la justice ne le poursuive pour avoir utilisé l'argent de ses clients pour des paris financiers. À New York, Loïc Loury.
Novembre 2022, la chute de FTX est en gestation, mais personne ou presque alors ne se doute de l'ampleur de la débâcle à venir pour l'une des plateformes de crypto-monnaie les plus populaires. En quelques jours, des rumeurs font souffler un vent de panique sur le petit monde des devises virtuelles et les clients de FTX se précipitent pour récupérer leur argent. Problème, il manque des milliards dans les caisses et pour cause, SBF, le surnom de Sam Bankman-Fried, a puisé dans ses fonds pour effectuer des opérations financières à risque, investir dans l'immobilier ou faire des dons politiques. Du jour au lendemain, le château de cartes s'écroule et le petit génie des cryptos, avec son look d'adolescent, devient un paria, grand manipulateur selon ses détracteurs, mu par une mégalomanie pernicieuse, assure le bureau du procureur. Il n'était au contraire qu'un jeune chef d'entreprise, affirme ses avocats, victime des erreurs de jugement de ses partenaires. Mais la première de ces deux versions a prévalu. SBF a été reconnu coupable des 7 chefs d'accusation qui pesaient sur lui. La justice réclame entre 40 et 50 ans de prison.
Le temps de ce jeudi en France, très agité avec du vent sur la façade ouest et dans le sud. 7 départements sont en vigilance orange, vent et vagues, submersion. Des averses sur les deux tiers nord comptées ce matin de 0 à 11 degrés, 11 à 19 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture avec vous, Guillaume Herder.
Mais voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Les maths font-elles leur grand retour au lycée? Et c'est